Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la politique, aux partis et à la révolution. Et pour en parler, nous sommes avec Le du collectif Agitation. Donc bonjour Le.
Salut.
Alors du coup, aujourd'hui on va parler de cette question qui suscite un renouveau d'intérêt croissant dans les milieux d'extrême gauche, avec un renouveau d'intérêt pour Lénine, manifesté notamment par le tournant néo-léniniste de Lordon. Un renouveau d'intérêt aussi pour Gramsci et les questions d'hégémonie culturelle, et aussi pour la stratégie populiste de Laclau et Mouffe, et la question évidemment de la prise du pouvoir, de l'État, de la révolution comme phénomène avant tout de prise de pouvoir politique, de prise de pouvoir d'État. Et du coup, on avait envie de revenir sur ces questions et les débats qui suscite, à partir de Marx et de son évolution sur ces questions, puisqu'il a donné lieu à plein d'interprétations différentes, certains faisant de Marx plutôt un théoricien de l'anarchisme, comme Maximilien Rubel, d'autres lisant Marx comme un précurseur de Lénine, et enfin d'autres montrant que Marx évolue tout au long de sa vie sur le sujet, alors que d'autres vont plutôt insister sur le fait que globalement, il aurait toujours eu la même conception de ces questions-là tout au long de sa vie. Et puis évidemment, on reviendra aussi sur le grand débat entre Lénine et Luxembourg, et puis aussi sur tous les débats qui ont agité l'ultra-gauche, on va dire, française des années 60-70 sur ces questions de politique, de parti et de révolution. Alors peut-être du coup pour commencer, revenons du coup à la source, à la source de tous ces débats, ce sont évidemment les écrits de Marx sur ces sujets-là, qui sont nombreux à partir des années 1840, sa critique de la bureaucratie du début des années 1840, et qui va jusqu'à vraiment la fin de sa vie, où il se passionne par exemple, c'est le sujet notamment du livre aux éditions La Symétrie, Le Dernier Marx, pour la démocratie chez les Iroquois. Et évidemment, on connaît certains fameux épisodes, son apologie de la Commune de Paris qui voit comme la réalisation de la dictature du prolétariat, sa conception du parti, qui naît vraiment à la fin des années 1840. On va revenir un petit peu là-dessus pour un petit peu avec le but de repenser à partir de cette histoire quand même riche intellectuellement les enjeux contemporains sur ces sujets-là. Donc peut-être qu'on peut commencer justement du coup sur Marx. Comment est-ce que tu verrais la conception que Marx a de la politique, du parti, de la révolution? Est-ce que toi tu vois plutôt des continuités ou des discontinuités? Tu vois plus Marx, du coup, comme un théoricien de l'anarchisme ou plutôt comme un précurseur de Lénine? Comment est-ce que tu penses Marx par rapport à ces sujets?
Je pense que la conception marxienne de la politique, auprès au sens large, c'est-à-dire non seulement la constitution du parti, la conquête ou non du pouvoir d'État, et ensuite l'exercice d'un pouvoir d'une classe sur une autre, qu'on a appelé la dictature du prolétariat, et on y reviendra plus tard, elle est à la fois d'ordre analytique, mais aussi d'ordre stratégique. C'est-à-dire que Marx, c'était effectivement un théoricien, connu pour ses ouvrages majeurs tels que Le Capital, mais c'est aussi un homme d'action, un militant, qui a participé à la Ligue des communistes durant le 19e siècle, puis à l'Association internationale des travailleurs. Il a pris position dans de nombreuses luttes sociales, que ce soit des révoltes d'insurrections armées au caractère prolétarien évident, mais aussi des luttes de libération nationale ou des conflits coloniaux et dont il fallait choisir un camp à soutenir en fait finalement, une position à tenir pour l'Association internationale des travailleurs qui représentait le mouvement ouvrier dans sa généralité. Donc la question de l'État, elle se pose à partir de ces travaux. Et quand Marx, le Marx jeune hegelien, il va écrire dans la question juive qui va opposer l'État à l'émancipation politique, puisque l'État c'est la réalisation du citoyen, donc c'est la subsomption de l'individu dans des catégories qui sont finalement politiques et qui empêchent l'émancipation humaine, et ben en fait il a une visée qui est de l'ordre du... qui est de l'ordre de la critique de Hegel. C'est une critique de Hegel, c'est-à-dire que c'est un jeune hegelien, mais un jeune hegelien qui va commencer à se départir de Hegel, et qui va affirmer que l'État bourgeois institue la politique comme sphère séparée, et donc constitue un obstacle en fait à l'émancipation de l'homme en tant que tel.
Oui, et c'est à ce moment-là aussi qu'il fait sa critique de la bureaucratie comme quasiment une sorte de classe dominante qui est en dehors de la société civile et qui domine. C'est bon, évidemment là où, effectivement, il va contre l'idée de Hegel, enfin en tout cas une certaine lecture de Hegel, mais bon, un certain conservatisme, disons, qui fait voilà de l'État prussien et de sa bureaucratie rationnelle légale, pour reprendre l'idée de Weber, un peu une sorte de voilà d'idéal ou de réalisation d'histoire. Marx, il va vraiment contre ça, et du coup, effectivement, c'est là où bon, c'est souvent des textes qui sont mis en avant par exemple par quelqu'un comme Maximilien Rubel, qui va plutôt essayer de montrer que le jeune Marx, par exemple, c'est vraiment cette idée de la démocratie contre l'État.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ensuite, la démocratie va moins s'opposer à l'État dans des textes plus politiques, comme le Manifeste du Parti communiste, qui est, en fait, sans qu'on le prenne, un gros tract à destination des travailleurs, où l'État devient l'outil de domination d'une classe sur une autre. Donc là, on en fait un agent immédiat de la lutte sociale, et il n'est pas opposé à des principes abstraits qu'il viendrait un peu empêcher, mais finalement c'est plutôt un outil de lutte d'une classe sur une autre, mais qui peut-être être renversé. Et c'est à partir des manifestes du Parti communiste que Lénine et bien d'autres vont développer leur théorie de l'État comme le lieu d'une lutte qu'on pourrait investir et qui serait finalement un peu neutre, puisque comme c'est l'instrument d'une classe, il peut être retourné, il peut être renversé. Bien que, encore une fois, on en reparlera quand on verra avec Lénine, mais Lénine a beaucoup nuancé son propos là-dessus, notamment dans l'État et la Révolution. Et ensuite, sur la fin de sa vie, notamment avec l'expérience de la Commune de Paris, donc là on voit encore que les positions de Marx, elles sont aussi fonction des événements historiques dont il est témoin, il qualifie l'État de parasite et d'avorton surnaturel de la société. Là, Marx constate que d'autres formes d'organisation peuvent être substituées à l'État, et même s'il ne donnera jamais de réponse définitive à cette problématique, qui va traverser l'ensemble de son œuvre et les débats de l'époque, qu'on pense notamment à ces débats avec Bakounine, dont on parlera un peu après, on voit qu'il y a d'autres fenêtres de sortie, et que l'horizon de la politique s'élargit, comme tu l'as dit en introduction, pour Marx.
Ouais, en fait, et ce qui est intéressant... et en même temps complexe, c'est que l'État pour Marx, peut-être presque on pourrait parler d'une sorte de polysémie, dans le sens où effectivement au début de sa vie c'est vraiment l'État comme incarné par la bureaucratie, qui s'érige au-dessus de la société et qui joue comme un parasite. Bon, ça c'est une conception finalement aussi qu'il garde plus tard, mais qui l'enrichit aussi de cette idée que l'État c'est aussi un État de classe, un État de domination de classe. Et du coup, ce qui fait que l'État devient potentiellement émancipateur à partir du moment où il y a la dictature du prolétariat, sur lequel on va revenir, dans ces différentes conceptions, entre guillemets, l'État ne recouvre pas exactement le même contenu, puisque par exemple, l'État, chez Marx, l'État, on va dire, de la dictature du prolétariat, c'est un État, en gros, si je reprends ce que dit David Adam dans un article dans l'Ipcom, c'est caractérisé par deux choses, c'est le peuple en armes. Du coup, ce qui fait que, par une des grandes caractéristiques des États modernes, c'est-à-dire une armée professionnelle subordonnée à un pouvoir civil séparé, ça disparaît. Bon, d'ailleurs, ça va être repris par Lénine, même si de facto l'armée rouge va quand même être créée, donc voilà. Et après, la deuxième caractéristique que David Hanam met de cet État, de la dictature du prolétariat, en fait, à part le peuple en armes, c'est l'idée de qu'il y a des élections et il y a l'élection de on va dire de représentants, de ceux en fait qui sont chargés en fait de coordonner notamment la lutte contre la contre-révolution bourgeoise. Mais ceux-ci ne sont pas comme les fonctionnaires d'un État moderne nommés à vie et constituent une sorte de caste séparée, mais élu avec un mandat révocable, donc c'est-à-dire c'est le fonctionnement de la Commune de Paris, c'est-à-dire que les prolétaires qui les ont élus peuvent leur retirer le pouvoir à tout moment. Et donc effectivement, on est là sur... alors déjà, on est là dans une distinction par rapport à l'État moderne ou l'État bourgeois, cet État, entre guillemets, de la dictature du prolétariat de Marx, et on est aussi dans une distinction par rapport à ce que sera l'État soviétique, entre guillemets, l'État de Lénine. Donc effectivement... un petit peu comme sur la question du travail, où, qui donne lieu à des polémiques infinies, puisque qu'est-ce que veut dire la critique du travail à partir du moment où il y a 3 ou 4 définitions dans l'œuvre de Marx de ce que c'est que le travail, là on est un petit peu dans des polémiques, enfin, dans des. Voilà, dans une polysémie, disons, du concept qui fait que, effectivement, enfin, qui facilite un petit peu les embrouilles, puisque, effectivement, quand on voit État prolétarien, quand on est anarchiste, on bondit, mais effectivement, si on a. Cette définition-là de Marx, on bondit peut-être déjà moins.
Oui, c'est tout un tas d'enjeux qui relèvent un peu de la philologie des textes marxiens, mais qui prêtent à beaucoup d'anachronismes, puisqu'on est face à des concepts qui ont aujourd'hui une existence un peu galvaudée, surtout celui de dictature, qui a été un peu remis à la mode par les nouveaux philosophes et tous leurs travaux sur le totalitarisme. Mais il a clarifié d'ailleurs lui-même Marx après la Commune, puisqu'il écrit à Engels en 1891 « Le philistin social-démocrate a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air? Regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat. » Donc là il fait le lien explicite avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait la dictature du prolétariat c'est la forme de démocratie directe la plus libre, la plus exprimée, mais qui est la forme de démocratie exprimée par une classe. Et cette classe, c'est la classe des exploités. Et la notion de dictature du prolétariat, elle a évidemment connu un destin malheureux par Lénine et par Staline ensuite, mais parce que ce sens, il revêt une ambivalence pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, mais déjà à l'époque, on était sur des choses, qui peuvent paraître parfois ambiguës. Par exemple, dans les luttes de classe en France, en 1850, Marx, il est encore jacobin, et là, pour lui, la dictature du prolétariat, ça reste quand même une centralisation de la puissance politique qui n'a pas nécessairement vocation à être abolie tout de suite dans le cours de la situation révolutionnaire. C'est d'abord une conquête du pouvoir politique, un affermissement du prolétariat, et lorsque le pouvoir est stabilisé, alors peut-être on verra, mais là, il n'en est pas encore question.
Oui, là, effectivement, on voit une évolution par rapport à la Commune de Paris, où là, effectivement... Son modèle de la Commune de Paris, c'est un peu l'inverse de ce qu'on entend par la dictature d'une minorité, puisque précisément, ceux qui ont le pouvoir, c'est bon, le peuple en armes de manière générale, puisqu'en général, voilà, l'arme de la critique ne remplace pas la critique par les armes, donc vraiment, les armes, c'est un petit peu ce qui fait la puissance politique dans des moments révolutionnaires, donc à partir du moment où tout le monde... des classes dominées ont des armes, bon bah c'est eux qui ont collectivement le pouvoir, et ceux à qui on donne un petit peu plus de pouvoir, ce n'est qu'une délégation limitée, puisque le mandat révocable, donc on est vraiment à l'inverse de la conception, voilà, un petit peu encore avant-gardiste, ou on va dire blanquiste, de Marx fin des années 1840, même s'il est quand même déjà dans une critique du blanquisme, on reviendra peut-être un petit peu là-dessus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde la composition de classe de la Commune de Paris, en fait, on se rend compte que là où, effectivement, une des objections majeures, on peut dire « Ah oui, mais le problème avec dictature du prolétariat, c'est si on comprend le prolétariat comme simplement les ouvriers d'usine, du coup, en URSS, enfin en Russie, en 1917, ça voulait dire, en gros, donner le pouvoir que aux ouvriers d'usine, bon, ce qui n'a pas été le cas, vu que les ouvriers d'usine, ils n'ont pas vraiment eu le pouvoir, c'est le parti bolchevique qui a pris le pouvoir à partir d'octobre, mais... En fait, on se rend compte que, enfin voilà, chez Marx, en fait, la dictature du prolétariat, ça veut dire en fait le pouvoir politique de la majorité, ouais. De la majorité des classes dominées, y compris les artisans, les petits artisans, etc.
Un pouvoir politique qui vise immédiatement, et ça, je pense que c'est important de le dire, enfin, après sa phase jacobine, à son abolition. C'est-à-dire que la dictature du prolétariat, c'est l'exacerbation des conflits de classe. par le prolétariat qui prend le pouvoir et qui pointe littéralement en fait une arme sur la tombe de la bourgeoisie en visant finalement à la destruction du pouvoir bourgeois et toutes ses catégories. Et ça, je pense que c'est important à le dire, et sinon on se condamne à ne rien comprendre aux polémiques qui ont agité l'AIT, et notamment celles qui opposent Marx à Bakounine. Puisqu'en fait, la question de la dictature du prolétariat, dans le sens avec lequel on vient de le présenter, elle pourrait aussi s'appliquer finalement à Bakounine, puisque chez Bakounine, il y a l'idée qu'il faut qu'une fraction un peu spontanée des prolétaires prennent le pouvoir en... Enfin, pas prendre le pouvoir au terme de dans le sens de conquérir le pouvoir d'État, mais exerce une action violente, décisive, contre la bourgeoisie. Donc là, on est dans une forme de dictature du prolétariat, même s'il n'y a pas d'État à la fin, quoi.
Et d'ailleurs, je dirais qu'un des paradoxes, finalement, de la polémique entre Marx et Bakounine, surtout à l'aune, on va dire, de l'affrontement, de la relecture de cet affrontement par les léninistes d'une part et les anarchistes d'autre part, c'est que Marx, quand il développe sa conception du parti à la fin des années 1840, premièrement, pour lui, le parti, il le dit d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste, le Parti communiste n'est qu'une fraction du Parti ouvrier plus général, et là il entend Parti ouvrier simplement comme le mouvement ouvrier organisé dans un sens assez lâche finalement, parce qu'il considère par exemple que le chartisme, c'est un parti, alors qu'aujourd'hui on dirait que c'est un mouvement social, voilà, qui a une certaine structuration, qui a voilà, des figures, une certaine organisation, mais qui n'est pas du tout le parti bolchevique, l'avant-garde de révolutionnaires professionnels de Lénine d'avant 1917, et encore moins le parti de masse bureaucratique de Staline d'après 1917. Et d'autre part, chez Marx, cette conception du parti communiste qui, en fait, du coup, correspond en fait surtout à une sorte d'organisation qui vise à intervenir dans le mouvement ouvrier organisé pour, lui, il met en avant deux choses. D'une part, mettre en avant les intérêts spécifiques du prolétariat indépendamment de toute question de nationalité. Et d'autre part, évidemment, être la fraction la plus radicale, entre guillemets, du parti ouvrier. Mais donc, du coup, il ne pense pas ce parti communiste comme étant, comme dominant une masse ouvrière qui serait simplement bête et méchante et qu'on devrait mener entre guillemets comme un troupeau, qui sera un petit peu la conception de Lénine plus tard. Mais en fait, il pense assez modestement en fait le Parti communiste qui à l'époque est incarné par la Ligue des communistes, qui est une petite organisation au final hein, de quelques centaines de personnes, comme simplement une sorte d'organisation plus ou moins structuré, qui essaye d'intervenir dans les luttes sociales pour promouvoir vraiment les intérêts spécifiques du prolétariat et le pousser à, d'une part refuser le nationalisme et d'autre part refuser le compromis avec la bourgeoisie. Et sur un mode d'organisation, pour finir, qui est celui d'une démocratie interne très importante, c'est-à-dire que l'idée de Marx, c'est que ces partis, entre guillemets, deviennent des organisations de masse qui sont rejoignables, où ce sont les adhérents eux-mêmes qui fixent la ligne à travers des congrès, alors que, effectivement, là où on peut un petit peu critiquer Bakounine, c'est que la pratique de Bakounine, qui est en fait typique de l'époque, c'est là où la Ligue des communistes tranche un petit peu, et d'ailleurs explicitement cherche à se distinguer d'eux, le mode de fonctionnement de Bakounine jusqu'à l'international anti-autoritaire, c'est celui d'une sorte de petite secte, qui est très ritualisée, secrète, de quelques individus qui jurent serment, et qui obéit à une sorte de dictateur qui est Bakounine. Donc en fait, Bakounine, effectivement, va devenir, un précurseur de l'anarchisme, et ensuite il va connaître une évolution, mais c'est pas le plus anti-autoritaire des deux en termes de pratique politique jusqu'à en fait assez tardivement.
Tout à fait. D'ailleurs, la notion de parti chez Marx, elle revêt en fait le sens, je pense qu'on pourrait le dire, du mouvement réel tel qu'il le définit dans l'idéologie allemande. Le parti croit au fur et à mesure que les luttes sociales s'intensifient et que la question du communisme, elle revient à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, Marx était favorable à une dissolution de l'AIT, car il la considérait désormais, à une période de lutte sociale, comme obsolète, comme une structure d'organisation formelle du prolétariat qui avait plus vraiment de sens à l'époque où il existait. Donc on voit que le parti, en fait, chez Marx, c'est une notion avant tout historique. C'est pas une notion stratégique qu'il faudrait, à laquelle il faudrait correspondre pour réaliser le communisme. C'est quelque chose qui se produit et dont, alors ça, Gilles Dauvé en parle dans un article sur l'idéologie d'ultra-gauche, qu'il faudrait ni craindre, comme le font les conseillistes et les anti-autoritaires en général, ni construire, comme le font les léninistes. Le parti, il surgit presque spontanément, en fait. Et là, on voit que c'est une phase assez méconnue de la pensée de Marx. Il surgit spontanément du développement du capital, et le prolétariat s'y engage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait du parti? Qu'est-ce qu'il devient quand on connaît un reflux des luttes sociales? Ça, c'est une autre question, et c'est une question à laquelle, notamment, Amedeo Bordiga, et le bordiguisme en général, va s'atteler. En disant, bah, en fait, le parti doit, même quand il se passe rien, même quand c'est la léthargie du mouvement ouvrier, bah, il doit faire survivre l'idée de communisme, la ligne rouge marxiste, et c'est un peu un relais qui gonfle, qui se dégonfle, un baromètre finalement des luttes.
Ouais, c'est intéressant, et d'ailleurs tu dis ça pour l'International, l'Association Internationale des Travailleurs, mais c'est aussi vrai pour la Ligue des communistes. En fait, Marx, à un moment, va considérer, avec le reflux révolutionnaire post-1848, que, en fait, la révolution est finie, avec le retour de la prospérité économique, et que, en fait, ça ne sert à rien de maintenir la Ligue des communistes. Et d'une certaine manière, même si la Ligue des communistes est traversée par, bon, comme dans toutes les organisations, des scissions entre ceux qui pensent que la révolution est encore possible, comme, par exemple, j'ai oublié un peu le nom, mais ceux qui pensent que la révolution est possible ou ceux qui, au contraire, pensent que la révolution n'est plus possible, c'est le cas de Marx dès 1850. Effectivement, Marx considère que voilà, ça ne sert à rien de faire survivre cette organisation qui n'a plus lieu d'être en fonction du contexte historique, comme tu le rappelais, ce qui ne veut pas dire que Marx, après, pendant 20 ans jusqu'à la fondation de l'AIT, ne fait rien, parce qu'il continue de participer à notamment des réunions autour du mouvement ouvrier anglais, ce qu'il considère qu'à partir de ce moment-là, à ce moment-là, il considère que le mouvement réel, c'est le mouvement ouvrier anglais, qui lui continue de se développer, mais qui là, pour le coup, n'est pas particulièrement révolutionnaire, mais simplement, voilà, c'est le mouvement réel, bon, c'est des petites organisations qui n'ont plus l'objectif de faire la révolution à travers l'Europe, mais... Et donc, c'est intéressant ce que tu dis sur... Et peut-être que effectivement ce genre de conception justement historique ou contextuelle entre guillemets de la question du parti et de l'organisation plus générale, puisqu'ici on dit parti, en fait on pourrait dire organisation, c'est peut-être quelque chose qui permettrait de dépasser peut-être le fétichisme du parti ou de l'anti-parti. Le fétichisme du parti qui est typiquement celui des léninistes ce qui fait que ça conduit pratiquement à la multiplication d'un certain nombre de groupuscules ou de sectes de partis qui ont tous prétention à devenir le nouveau parti de l'avant-garde du prolétariat, y compris dans des moments où il se passe rien, et y compris en ayant une composition sociologique qui n'est pas très prolétarienne. Et à l'inverse, le fétichisme de l'anti-parti ou de l'anti-organisation qu'on retrouve... Alors effectivement, on aurait tendance à penser aux anarchistes, mais en fait surtout à une fraction des anarchistes, qui sont les anarchistes individualistes ou anti-organisation, qui vont faire presque de chaque organisation, y compris dans des moments où l'organisation s'impose, comme par exemple, je sais pas, la révolution russe ou la révolution en Ukraine, une sorte de... voilà, d'horreur qu'il faudrait éviter à tout prix, alors qu'on sait, bon, par exemple, si on compare l'action des anarchistes en Russie et en Ukraine, malgré tous les reproches qu'on peut faire à la Makhnovtchina en termes de composition de classe, d'idéologie, de compromission, etc., etc., ça a été quand même une force agissante, là où effectivement, dans certains centres en Russie, où c'était juste des intellectuels un peu désorganisés, ils n'ont pas pesé énormément dans la révolution russe, et ils ont plutôt permis à la force la mieux organisée, qui était le parti bolchevique, de prendre le pouvoir. Alors même qu'ils avaient des idées qui étaient susceptibles de rallier la majorité des gens.
Force la mieux organisée, qui elle aussi, en fait, tout compte fait, est un produit historique déterminé qui est, en fait, ce qui s'imposait à Lénine, ou en tout cas ce qu'il a cru qu'il s'imposait à lui, c'était de construire le capitalisme en Russie. Et il est très clair là-dessus, dès 1918, il appelle sur le modèle du capitalisme allemand, à construire un état bourgeois, c'est-à-dire à moderniser l'économie russe, pour ensuite plus tard peut-être, pouvoir parvenir au communisme. Donc la forme parti, en fait, elle s'est imposée à lui, finalement. Il l'a choisi, et il a décidé, alors bon, il l'a pas décidé comme ça, elle n'est pas non plus tombée du ciel, il a dû effectivement réprimer certaines forces, les socialistes révolutionnaires, les anarchistes, qui n'avaient pas les mêmes ambitions que lui, ou en tout cas pas le même itinéraire pour y parvenir, je sais pas. Et ensuite, le parti, il reste une force historique dans tous les cas, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, en fait, si on fait une analyse de matérialiste, entre guillemets, des causes du débat entre Luxembourg et Lénine, force est de se constater que la Russie est un pays où, en fait, la répression politique était tellement forte sous le tsarisme que, en fait, c'était impossible de construire une organisation de masse. Et effectivement, on va pas dire que le léninisme, c'est le pire produit du tsarisme. Un peu sous la forme de la boutade. Mais on peut dire que le léninisme est aussi le produit des conditions politiques de la Russie tsariste, c'est-à-dire une situation où il est impossible de construire une organisation de masse à ciel ouvert, avec des congrès où, une masse très importante de gens peuvent participer. Et en fait, le parti bolchevique est aussi le produit d'une situation où, objectivement, pour organiser la lutte, une armée de révolutionnaires professionnels disciplinés et obéissants à une sorte de directoire en exil était effectivement une force, pas nécessairement qui s'imposait, puisqu'on sait que d'autres organisations se sont structurées différemment, mais globalement, effectivement, on voit que les anarchistes, en 1905, à part une brève phase de libéralisation où ils peuvent participer à des syndicats, globalement, ce qu'ils font, c'est beaucoup de terrorisme, en 1905, puisque leur activité est illégale. Les anarchistes vont vraiment créer des organisations qui vont faire autre chose que de l'action directe terroriste, seulement après février 1917, c'est-à-dire un moment où, pour le coup, les conditions, entre guillemets, de la société bourgeoise libérale sont là, où ils peuvent créer justement des organisations de masse qui ne représentent pas des sortes d'armées de révolutionnaires professionnels. Et on voit que, par exemple, les socialistes révolutionnaires, qui ensuite vont prendre un ton extrêmement démocratiste, attendons l'Assemblée constituante pour régler la question de la réforme agraire, etc. Avant 1917, ils sont dans des conditions de répression politique telles que, en fait, l'essentiel de leur action, c'est des attentats contre le tsar et sa famille, et des officiels tsaristes. Donc on voit que, matériellement, le parti ou l'organisation est quand même très modelé par la situation politique répressive, là où en Allemagne, il y a la possibilité de faire un parti de masse où effectivement les ouvriers peuvent jouer un rôle direct, d'où la conception effectivement de Luxembourg. Même si je prétends pas réduire le débat à Luxembourg, à Lénine, à simplement les conditions matérielles et politiques en Russie et en Allemagne, mais c'est effectivement quelque chose qui est important à prendre en compte et qui, comme tu le disais, comme tu dis, Lénine, c'est aussi le produit de son époque, et Luxembourg aussi, et c'est pas simplement des sortes de Deus ex machina qui se sont opposés politiquement sur ces questions-là, un petit peu de manière hors sol, quoi.
Oui, c'est les circonstances historiques, nationales, politiques, qui forgent les termes dans lesquels vont se poser, en fait, les questions stratégiques. Et lorsque Rosa Luxembourg fait la promotion des conseils ouvriers et de la démocratie directe du mouvement prolétarien, en fait, elle le fait dans les termes qui sont les siens en Allemagne, et qui ont eu un écho au-delà d'elle, d'ailleurs, parce qu'après l'assassinat de Luxembourg par les Freikorps, il reste quand même des expériences communistes en Bavière, ou en tout cas des luttes sociales intenses autour de Munich, etc. Donc là, on voit que finalement, même au-delà du débat qui s'est posé, en fait, c'est le communisme allemand, parce qu'un communisme développé avec une base ouvrière forte, qui va pouvoir lancer des expérimentations, etc. Et ça, Lénine, il en avait plus ou moins conscience, puisqu'il dit s'inspirer du modèle allemand, simplement il estime avoir un train de retard qu'il faudrait, selon lui, rattraper. Et ensuite, quand la Troisième Internationale s'est créée et qu'il a commencé à avoir une direction du Comintern sur les autres partis européens, il va impulser un peu des stratégies sur le modèle soviétique cette fois, ce qui sera encore plus amplifié chez Staline, qui ne voit que l'URSS comme modèle à suivre, et où là, finalement, on va perdre un peu cette politique circonstanciée, cette politique de la conjoncture, qui, à mon avis, était intéressante chez les premiers communistes à l'époque.
Oui, non, mais ça, c'est sûr qu'effectivement, un des désastres entre guillemets du, enfin disons de, du fétichisme du parti sur le modèle marxiste-léniniste, c'est que du coup on va chercher à le répliquer partout dans le monde avec des conditions extrêmement différentes. Alors avec chaque fois, en fait, il y aura des adaptations locales. Hein. Le parti des Khmers rouges ne ressemble pas au parti de Mao, qui ne ressemble pas au parti marxiste-léniniste, etc. Mais en tout cas, bon, par contre, il y aura un certain nombre de travers qui vont se répliquer partout, avec notamment bon, l'idée que finalement, c'est l'efficacité et la discipline qui priment avant tout. Finalement, l'idée que de la démocratie à l'intérieur du parti va disparaître, l'idée, entre guillemets, que le parti communiste ne serait qu'une fraction du parti ouvrier au sens de mouvement ouvrier, alors là, cette idée va complètement disparaître. Voilà, effectivement, on voit que... et tout ça est lié aussi voilà, à une certaine violence, en fait, politique et sociale. Hein. On va pas nier le fait que... bon, ce qui modèle aussi, enfin, bon, tous les aspects négatifs, voilà, du modèle marxiste-léniniste, de la révolution, de la prise du pouvoir du parti, de la dictature du parti sur le prolétariat plus que de la dictature du prolétariat, c'est aussi, voilà, le fait que c'était, enfin, sans tomber dans la thèse que toutes les circonstances expliquent tout, puisqu'on voit bien que chez Lénine, en fait, il y a quand même, dès la phase avant 1917, il y a un certain cynisme, une certaine conception de la politique qui, voilà, qui accepte aussi, qui fait passer l'efficacité avant tout, hein, par exemple. C'est comme ça qu'il va s'opposer à de nombreux camarades de son parti au début des années 1900. Sur une histoire qui peut paraître anecdotique, mais en fait, un camarade du parti a poussé au suicide une camarade en lui faisant du chantage, et Lénine considère que comme c'est un camarade qui est efficace, voilà, il faut pas le sanctionner, il faut le garder, et cette conception un peu cynique de la politique et du primat de l'efficacité avant tout... va conduire, bon, bah, à force, effectivement, une forme d'organisation extrêmement dictatoriale à l'intérieur du parti et de dictature du parti sur le reste de la société.
Et qu'on a vu pousser à l'excès, finalement, un peu chez Bordiga et les bordiguistes, qui vont parler d'expression organique du prolétariat pour le parti, où ils vont détruire un peu les faux-semblants démocratiques que Lénine tâchait quand même de mettre en avant par un centralisme démocratique, c'est-à-dire liberté totale dans la discussion, unité dans l'action. La liberté totale dans la discussion chez Bordiga, elle est balayée explicitement, quoi, pour dire que finalement, en fait, il y a une ligne véritablement marxiste qui doit s'imposer et qui doit combattre les lignes dissidentes de toutes les forces qu'elle peut. Donc là aussi, on a à nouveau, et là, c'est aussi en parallèle, le produit de circonstances particulières, puisque Bordiga, finalement, il a vécu la montée du fascisme en Italie, il a vécu la clandestinité, et finalement, bah, il avait tout de suite une conception quasi militaire du parti prolétarien.
Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait penser aussi à la période stalinienne, sur le changement de composition sociologique de la direction du parti bolchevique dans les années 1930, où la vieille garde bolchevique, qui malgré tout était quand même baignée des idées des Lumières, de voilà la démocratie, etc., même si, bon, dans la pratique, c'était passé sous le tapis, hein, entendons-nous bien, mais qui restait un petit peu attachée quand même à certaines idées, comme... Bon, l'idée de démocratie, ou dans le parti, ou l'idée d'égalité homme-femme, etc., va être balayée par une génération, effectivement, de néo-bureaucrates, qui, eux, viennent plutôt des classes populaires, ou vraiment de la toute petite bourgeoisie, et qui, eux, sont moins baignés voilà, de ces idéaux, bon, qui de toute façon n'existaient pas dans la réalité, hein, et qui ont une conception un petit peu plus carriériste et opportuniste du pouvoir, et bon, qui se retrouve du coup assez bien dans l'expérience stalinienne, et du coup, effectivement, de plus en plus, dans les partis marxistes-léninistes, bon, surtout, on peut penser à, bah, en URSS notamment, et puis ailleurs, dans une certaine mesure, cet idéal régulateur du centralisme démocratique, qui de toute façon était déjà balayé dans les faits par Lénine et Trotsky, va être en plus balayé idéologiquement, voilà, dès cette période, voilà, la démocratie devient quelque chose de complètement bourgeois, de considéré comme complètement bourgeois, et voilà, qui n'a pas lieu d'être, qui presque est un modèle repoussoir, contre l'efficacité, etc., etc.
Et même au-delà des organisations partidaires, on retrouve un peu... c'est la question, en fait, de l'intervention qui se pose, et de l'intervention à partir de quelle position on l'effectue. C'est-à-dire que si on estime qu'on est les seuls détenteurs de la science communiste et qu'on doit l'appliquer en l'insufflant, finalement, aux masses hébétées, alors oui, ça paraît logique de faire fi un peu des procédures démocratiques qui sont autant de freins à la conscience de classe. Et la question de l'intervention, elle va se poser de manière plus générale dans les luttes sociales de l'après-Seconde Guerre mondiale, et notamment en mai 68 en France, avec des groupes conseillistes qui, donc, apparemment, a priori, vont refuser le contrôle du pouvoir d'État, la forme du parti, mais qui vont quand même se poser la question de l'intervention. C'est-à-dire, comment on fait de l'intervention, qui on est par rapport au prolétariat, est-ce qu'on assume cette position d'extériorité, et qu'est-ce qu'on fait à partir d'elle?
Oui, et justement, c'est effectivement une question qui est importante, puisque, effectivement... Le conseillisme, dès ses origines, pour revenir un petit peu en arrière, mais le mouvement conseilliste, il prend presque deux orientations assez différentes, déjà dans l'Allemagne des années 1920, avec, on va dire, un conseillisme plutôt celui, par exemple, de quelqu'un comme Pankouk, qui conduit à une forme d'anti-interventionnisme, presque une conception un peu déterministe et mécaniste de l'histoire, où finalement c'est le prolétariat spontanément qui fera la révolution. Et à l'inverse, on a des formes de conseillisme beaucoup plus avant-gardistes, qu'on retrouve notamment chez les héritiers du KAPD, hein, qui était une sorte de tendance gauchiste à la gauche du parti communiste allemand, hein. Bon, tout ça est assez complexe, mais représente quand même des effectifs assez importants, hein. Matic, dans sa biographie, parle de groupuscules, mais c'était quand même des groupuscules où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Donc voilà, c'est quand même des gros groupuscules à l'époque. Et effectivement, eux ont une conception... Alors effectivement, à chaque fois, c'est basé sur les conseils ouvriers, hein, donc voilà, qui est un mouvement qui a existé en Allemagne fin 1918, et puis en 1919 aussi, des assemblées... un petit peu le modèle des soviets, en fait, c'est des assemblées de soldats, de paysans et d'ouvriers, alors beaucoup d'ouvriers en Allemagne aussi, hein, et de soldats, qui sont des organismes de pouvoir prolétarien et de prise de décision démocratique. Et effectivement, ce qui unit les conseillistes, c'est évidemment l'idée que le pouvoir, ça doit être ça, donc c'est un petit peu leur slogan, ce serait presque tout le pouvoir au conseil, et pas tout le pouvoir aux soviets. Mais effectivement, ce genre de dilemme et de débat qu'il y avait déjà dans le conseillisme, on va dire germano-hollandais des années 1920, va se retrouver en 68 entre d'une part plutôt la tendance incarnée par ce qui va devenir Échanger Mouvement, donc qui à l'époque s'appelle l'ICO, et d'autre part, par exemple, les situationnistes qui feront une fameuse critique de cette tendance. De l'ICO en disant qu'elle était à l'avant-garde de l'impuissance.
Oui, là d'ailleurs, les situationnistes y reprennent, alors volontairement ou non, je sais pas, mais un peu le reproche qu'adressait Marx à Bakounine et aux anarchistes en particulier de faire de l'abstentionnisme politique, de ne pas se prononcer et d'abandonner le terrain de la lutte à des aléas un peu volontaristes finalement. Alors que ICO, volontariste, chez Bakounine c'était des anarchistes, et chez ICO c'est des ouvriers qu'on va regarder, et nous on va se contenter, donc ICO c'est information et correspondance ouvrière, justement on va se contenter de relayer leurs luttes, de relayer leurs actions, sans y prendre part, puisque, alors la question de la légitimité ne se posait pas à l'époque, évidemment, mais puisqu'on serait un obstacle finalement, en tant que militant communiste, en fait on viendrait parasiter, on viendrait obstruer la destinée révolutionnaire du prolétariat, dont la seule tâche, et finalement d'accomplir le communisme. Et comme c'est sa mission historique, et ben il va la réaliser quoi qu'il se passe. Donc ils étaient un peu dans une certaine solitude, ICO, que l'international situationniste va vouloir briser en disant que l'avant-garde, et là où ils vont s'inspirer aussi des bordiguistes, même s'ils rejoignent davantage la conception conseilliste du pouvoir démocratique, des conseils ouvriers, etc., où l'avant-garde va venir porter un programme fort, puisque chez Liès, c'est la critique du travail, c'est la critique de l'aliénation, c'est la critique de la marchandise, plein d'éléments qu'on retrouvait pas vraiment dans la première phase historique du mouvement ouvrier, et ils vont venir venir la dispenser en fait ce programme auprès du mouvement ouvrier, des ouvriers en lutte. Et ensuite, dès que la lutte est initiée sur ces bases, sur des bases radicales, et ben alors la tâche de l'international situationniste, enfin du moins c'est telle qu'elle se pensait elle-même, c'était de se dissoudre dans le mouvement et de finalement ne plus apparaître comme une organisation à part, mais de devenir le cœur même du mouvement ouvrier, du parti, au sens où on l'a défini tout à l'heure.
En fait, finalement, on pourrait presque dire que l'international situationniste, c'est enfin la réalisation de la conception du parti chez Marx. On pourrait presque dire ça.
Oui, c'est ce qu'il voulait, en fait. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé à l'époque, pour plein de raisons qui seraient un peu fastidieux d'énumérer ici, mais on a une relecture de Marx aussi à l'époque, hein, dans les années 60, qui va justement chercher à dépasser tous les modèles un peu sclérosés de la bureaucratie soviétique, à partir d'une critique du capitalisme d'État et de tous les concepts qui se rapprochent de celui de capitalisme d'État, et qui va permettre finalement de repenser le rôle et la position que jouent les communistes dans le mouvement ouvrier.
Oui, oui, et du coup, ce qui fait qu'effectivement, on a chez l'international situationniste une tentative presque de dépassement un petit peu de l'opposition entre marxistes et anarchistes, hein, de manière générale d'ailleurs dans leur théorie, hein, puisqu'ils se réfèrent autant finalement à Marx qu'à Bakounine, autant à l'anarchisme de l'Espagne de 1936 que à certaines expériences plutôt qu'on rattache au marxisme, comme le mouvement conseilliste ou spartakiste voilà, de la révolution allemande de 1918-1919. Et notamment sur cette question, puisque, en fait, d'une certaine manière, ils sont pour une certaine organisation et pour un certain avant-gardisme idéologique, et en même temps, ils ne veulent pas diriger voilà, politiquement le prolétariat par en haut. Et c'est intéressant parce que finalement, voilà, cette tentative voilà, de dépassement, en fait, entre une certaine idée du marxisme et une certaine idée de l'anarchisme, en réalité, si on regarde, par exemple, la pratique de Bakounine, c'est encore compliqué. Parce que Bakounine, qu'est-ce qu'il fait à Lyon en 1870, au moment de la première commune de Lyon? En fait, c'est un petit groupe de gens qui organise une sorte de coup d'État révolutionnaire qui ressemble un peu à celui d'octobre 1917, sauf qu'il est bien moins préparé et il a pas la force armée pour lui, donc il échoue. Mais Bakounine avait une conception, finalement, sur certains aspects, hein, presque plus machiavélique que l'international situationniste, dans le sens où lui, son idée, c'était un petit peu d'exercer une sorte d'influence dans l'ombre sur la révolution pour qu'elle s'oriente bien. Là où l'international situationniste dit quand même, bon, une fois que le mouvement est lancé, nous, on se retire. En fait, on fait juste de l'agite propre, entre guillemets, dans un premier temps. On lance les idées. Alors Bakounine, finalement, a une conception presque plus machiavélique de la politique, ce qui, encore une fois, bon, est un petit peu étrange, effectivement, quand on, aujourd'hui, on pense cette opposition entre marxisme et anarchisme. Voilà, quand on compare la pratique politique de Marx et de Bakounine, sur certains aspects, elle correspond au cliché traditionnel. Oui, Marx avait une conception autoritaire du comité central, entre guillemets, de l'international, de la première internationale. Il va tenter des coups de force, comme en 1870 pendant la Commune de Paris. Il va tenter un petit peu de mettre au pas les différentes sections. Il avait aussi une pratique politique assez machiavélique, hein, notamment l'organisation du Congrès de La Haye en 1872. C'était exprès parce que la Hollande ne pouvait pas être accessible à tous les anarchistes, enfin, futurs anarchistes, ou disons les anti-autoritaires pro-Bakounine, parce que du coup, ça a obligé de passer soit par la Belgique, soit par l'Allemagne, qui étaient des pays où, précisément, ces gens-là ne pouvaient pas passer. Donc, c'est pas pour dire tout ça que... non, mais Marx, c'était le vrai démocrate, et que Bakounine, en fait, c'était un salaud de blanquiste. Mais bon, c'est pour dire, voilà, que les choses sont un petit peu plus compliquées parfois qu'on les présente dans une sorte de vision léniniste de Marx et de vision trop anarchiste, entre guillemets, de Bakounine.
D'ailleurs, dans toutes les luttes sociales et dans toutes les organisations révolutionnaires, il y a des luttes de ligne qu'il faut analyser, mais nous, notre tâche en tant que matérialiste, c'est aussi de penser ce qu'on reflète ces luttes de ligne, est-ce qu'elles sont le produit d'une époque, quelles caractéristiques sociales elles mettent en exergue de la part de leurs participants, de leurs initiateurs, etc. Et donc, en fait, plutôt que de figer des doctrines théoriques et d'essayer de les transplanter dans notre époque aujourd'hui, c'est-à-dire encore de construire le parti, la 4e, 5e, 6e internationale du mouvement ouvrier, c'est dire constituer des débats et voir en quoi ces débats étaient un produit de la lutte des classes telle qu'elle se jouait à l'époque, et aujourd'hui, quels sont les changements qui sont intervenus, qui peuvent et qui doivent nous permettre de repenser ces débats stratégiques, de repenser le sens qu'on donne à la tactique aujourd'hui. Et moi, ce que je pense également, c'est que on a assisté à un événement majeur au milieu des années 1970, un événement majeur qui est processuel et qui est encore cours aujourd'hui, qui est la restructuration du rapport capital-travail, et qui est corollaire de ce qu'on appelle la désintégration de l'identité ouvrière, donc l'idée que le prolétariat ne peut plus s'arrimer à une identité positive pour faire de la politique, en fait. Pour construire son pouvoir, pour construire le pouvoir prolétarien, quelle que soit la forme qu'il prenne, soit un pouvoir prolétarien étatique marxiste-léniniste, ou un pouvoir prolétarien conseilliste, un pouvoir prolétarien anarchiste, dans toutes ces théories, il y a en commun le fait que le prolétariat, la classe ouvrière, doit prendre le pouvoir, soit pour le détruire immédiatement, soit pour le conserver un peu, soit pour le conserver longtemps, mais en tout cas c'est le prolétariat, en tant que classe ouvrière, qui va prendre le pouvoir.
Oui, oui, et effectivement, je pense que c'est important de dire effectivement que il faut penser ces questions-là, voilà, de manière contextuelle et à l'aune aussi des changements en fait du capitalisme depuis les années 70, qui effectivement on détruit le mouvement ouvrier organisé partout dans le monde, et ce qui fait qu'aujourd'hui les luttes sociales se présentent sous une forme qui n'est plus celle de la phase fordiste ou même de la phase de l'ascension du mouvement ouvrier, hein, qui sont des conditions nouvelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a uniquement des éléments positifs là-dedans, hein. Bon, peut-être que chez certaines revues comme Endnotes, il y a une tendance peut-être un peu trop optimiste sur le fait que, d'une certaine manière, la restructuration, créerait les conditions, enfin, d'une certaine manière, d'une lutte pure, entre guillemets, du prolétariat contre les formes, en dehors de toute organisation, le prolétariat, voilà, s'attaquerait enfin au capital, et donc il y aurait une tendance, finalement à l'œuvre dans tous les mouvements populistes aujourd'hui à travers le monde qui irait vers le communisme. Bon, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, tenter comme le font beaucoup à gauche de s'arrimer à un modèle stratégique et organisationnel passé, que ce soit l'anarcho-syndicalisme, que ce soit le parti léniniste, etc., etc. Bon, évidemment, il faut s'intéresser à l'histoire de toutes ces formes d'organisation, en faire la critique, en tirer un bilan, etc., etc. Mais il faut les restituer dans leur contexte historique, et si on les restitue dans leur contexte historique, on se doute bien que du coup, ce ne sont pas des modèles à répliquer tels quels de manière univoque aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si on essaye, de recréer la CNT, c'est-à-dire un syndicat anarchiste de masse, on va pas y arriver, en fait. Et du coup, voilà. Mais effectivement, tout ça nous laisse devant une sorte de vide. En fait, c'est ça. La grande angoisse, on va dire, métaphysique qui saisit l'extrême-gauche et l'ultra-gauche depuis les années 70, c'est la mélancolie du mouvement ouvrier organisé. C'est-à-dire que, les formes qui historiquement avaient eu de l'importance, le syndicat anarchiste, le parti léniniste, etc., tout ça a disparu ou est réduit à des groupuscules, etc. Et du coup, face à ça, effectivement, il y a l'attitude mélancolique ou à la limite rêveuse qu'on pourrait recréer tout ça. Et puis, il y a une attitude, je vais pas dire cynique, mais plutôt une attitude qui fait, entre guillemets, le bilan de ses expériences passées, et qui est capable aussi de se dire, on est dans un nouveau contexte, donc il faut penser des nouvelles formes d'organisation, et ça veut pas dire qu'il faut repenser une forme d'organisation qu'on va garder pendant les 50 prochaines années. Et c'est contextuel, et chaque mouvement social, d'ailleurs, qu'il y a eu dans ces dernières années, il y a eu des formes d'organisation très intéressantes qui ont émergé, et ça n'a jamais été toujours les mêmes, avec les mêmes tactiques, les mêmes stratégies, les mêmes formes d'organisation, etc.
Une fois qu'on a pris acte de l'obsolescence des formes d'organisation dont tu parles, une nouvelle problématique qui se dresse à nous, et à mon avis c'est inédit dans l'histoire de la lutte des classes, c'est de déterminer si une stratégie, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire définir une manière de parvenir à un objectif politique précis, est encore envisageable. Ou est-ce que aujourd'hui la révolution communiste, dans ce nouveau cycle de lutte qui s'est entamé à partir des années 70, elle n'est pas un suicide, en fait, un suicide révolutionnaire de la classe qui a un caractère uniquement négatif et dont on ne pourrait pas déterminer, définir les étapes, comment il se produit. Et ça, c'est une question qui est nouvelle et je pense qu'on a beaucoup de mal à aborder, nous, marxistes, anarchistes, révolutionnaires, parce que elle nous rend en fait pas inutile, mais en tout cas abasourdi et un peu encore plus extérieur qu'on l'était auparavant du mouvement ouvrier, puisque là aujourd'hui le mouvement ouvrier lui-même il est extérieur à l'existence du prolétariat. Et finalement on est tous un peu atomisés dans ce chaos qui est le capitalisme restructuré, et ça nécessite d'envisager de nouveaux concepts, de nouvelles théories, de nouvelles formes de lutte qui sont encore aujourd'hui à l'œuvre. Par exemple, les émeutes qui ont tendance à se généraliser plutôt que des insurrections armées préparées, organisées selon des services d'ordre conséquents ou des organisations paramilitaires, et qui, à mon avis, restent un impensé, un angle mort majeur des théories communistes actuelles.
Oui, et ce qui est en fait, je pense, compliqué aujourd'hui, c'est comment dire, c'est un double écueil de croire que le mouvement réel mènerait inévitablement au communisme, qui presque serait un peu la tendance, en tout cas la critique qu'on pourrait faire à une revue comme Endnotes, en tout cas dans certains de ses textes comme En avant barbare, et donc il y a un petit peu une forme extrêmement optimiste qui ne pense pas, par exemple, que bon, la lutte des classes pourrait très bien évoluer dans un sens fasciste. C'est le sens d'ailleurs d'un article intéressant d'Agitation d'il y a quelques années. Et en même temps, la fin du mouvement ouvrier organisé la défaite globale politique hein, du mouvement ouvrier organisé, de ses différentes organisations et de ses différentes formes d'organisation, la crise de l'identité ouvrière et la crise de tous les modèles politiques, que ce soit le parti léniniste, le syndicat anarchiste, etc. Bon, tout ça, évidemment, nous plonge dans un certain désarroi et dans une certaine mélancolie, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir. Après, évidemment, la question qui se pose et qui est complexe, c'est à partir du moment où on fait le constat que rien ne sera plus jamais comme avant, et qu'en même temps, le mouvement réel ne va pas nécessairement mener au communisme, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, qu'il y a une question complexe, puisque si on croit que le mouvement réel mène inévitablement au communisme, bon, on peut se tourner les pouces et vaquer à notre vie capitaliste jusqu'à ce que le communisme arrive mécaniquement. Si à l'inverse, on pense que tout est foutu, bon bah en fait, voilà, tout est foutu, autant mener une vie bourgeoise bien rangée. Par contre, si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, voilà, se pose la question, et se rejoue un peu cette question de l'intervention, se pose la question, est-ce que notre rôle en tant que communiste, c'est simplement de chercher dans le mouvement réel, dans les mutations du capitalisme, des sortes de pistes théoriques pour repenser la question de la révolution aujourd'hui, tout en sachant que notre vocation, c'est pas forcément de répandre cette nouvelle conception. En même temps, force est de constater que d'autres, dans les milieux d'extrême gauche, eux sont persuadés qu'eux, ils ont la réponse et du coup gagnent une certaine forme d'hégémonie. Donc du coup, est-ce que l'enjeu, ça devient uniquement de se battre au sein des milieux militants qui sont principalement composés de gens d'origine bourgeoise et classe moyenne pour l'hégémonie sur la bonne théorie de la révolution ? Enfin voilà, c'est un petit peu les dilemmes, je pense, aujourd'hui, qui nous agitent et qui poussent à faire cette émission.
Bien sûr, parce que l'incertitude dans laquelle, et là je vais revenir sur les théoriciens que tu évoquais en introduction, l'incertitude dans laquelle nous laisse l'antipolitique, c'est-à-dire le constat qu'on ne peut pas produire de la politique communiste aujourd'hui, elle pousse certains et certaines à rechercher de nouveaux sujets révolutionnaires, ou en tout cas un nouveau moyen de combattre avec une certaine assurance. Et par exemple, il y a des théoriciens communistes, voire des théoriciens bordiguistes comme Jacques Camat, qui vont justement aller construire de nouveaux sujets qui leur semblent être des valeurs un peu plus sûres que la vieille figure de l'ouvrier un peu archaïque. Alors chez Camat, c'est la communauté humaine, le Gemeinwesen. Chez Castoriadis également, on avait une disparition, une moyennisation du prolétariat, etc. Et chez les intellectuels plus républicains, voire bourgeois, on a une excavation des travaux de Gramsci, de tous les travaux sur l'idéologie, sur la culture, où là, il n'y a plus vraiment de sujet révolutionnaire, mais il y a toute une grammaire du social qui peut être remodelée, qui peut être retravaillée, et qui permet quand même d'avoir une certaine prise, notamment lorsqu'on est un intellectuel et qu'on dispose d'un certain capital culturel, voire d'assises universitaires. On a une prise directe, on a un moyen de faire de la politique, en fait, en produisant de l'idéologie, et en l'assumant comme telle, et en la diffusant dans certains canaux médiatiques, souvent, ou des petits succès de librairie, etc.
Oui, et effectivement, presque, on pourrait dire que aujourd'hui, il y a un retour dans les milieux intellectuels et les milieux d'extrême gauche, et d'où je pense le tournant néo-léniniste de certains intellectuels comme Lordon, un certain retour à, j'allais dire, l'illusion politique, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais ou l'illusion interventionniste, c'est-à-dire l'idée que, un petit peu comme Lénine en son temps, on pourrait, enfin soi-disant, hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, la révolution russe en réalité, mais qu'on pourrait, à partir voilà, d'un petit parti d'intellectuels d'origine bourgeoise et classe moyenne, diriger les masses d'une manière révolutionnaire ou réformiste, ou entre les deux, c'est pas toujours très très clair. Et cette conception, je pense que... Alors là, je pense qu'on peut, on peut en faire une analyse matérialiste de pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers ça. C'est parce que... il y a eu, je pense, une certaine domination du spontanéisme ou de l'assembléisme dans les années 2000 et 2010 avec le mouvement des places, avant le mouvement altermondialiste, jusqu'à Nuit Debout notamment, etc., qui justement étaient des mouvements anti-organisationnels, et un certain nombre d'intellectuels sont devenus un peu frustrés par l'absence de résultats qui est indéniable, l'absence de résultats politiques tangibles, massifs, concrets, de ce genre de mouvement. Et par exemple, quelqu'un comme Andreas Malm, qui est aujourd'hui le nec plus ultra du marxisme-léninisme, c'est quelqu'un qui, il y a 15 ans, faisait des assemblées en agitant les mains. Donc on voit que, probablement que ce tournant néo-léniniste et cette recherche de la forme organisationnelle, du parti qui enfin mènera le peuple ou le prolétariat ou remplacé par un autre concept à la révolution anticapitaliste ou antiraciste, par exemple, si je prends le Parti indigène de la République, parce que les sujets révolutionnaires, il n'y a plus que le prolétariat comme sujet révolutionnaire potentiel aujourd'hui, on retombe un petit peu là-dedans, et je pense que ça naît aussi du fait que qu'il y a un échec aujourd'hui aussi, des formes de mouvements sociaux plus assembléistes et altermondialistes, etc. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que ces autres formes plus avant-gardistes, plus autoritaires, etc., seront aussi des échecs. Effectivement, je pense que, entre guillemets, on peut comprendre aujourd'hui cette illusion politique extrêmement tentante, puisque sinon, on a l'impression de se condamner à l'impuissance ou simplement à faire sa petite revue théorique dans son coin. Et effectivement, on comprend que un grand nombre de gens dans les milieux d'extrême gauche se tournent plus là-dessus. Mais on n'a pas forcément envie de... C'est pas une émission qui propose, disons, une sorte d'anti-interventionnisme tellement radical qu'en fait, il ne faudrait plus rien faire. Un petit peu comme, disons, une version extrême de l'ICO, qu'il faut le dire quand même, eux, ils étaient quand même pour participer aux luttes dans les usines. Quand ils étaient employés d'une usine, ils participaient à toutes les luttes. C'est juste simplement, ils prétendaient pas diriger la lutte ou diffuser leurs idées conseillistes dans les luttes.
Ils participaient en tant qu'ouvriers et pas en tant que conseillistes.
C'est ça. Donc évidemment, à minima, bien sûr que la participation aux luttes sociales en tant que prolétaire, en tant que prof, en tant que je ne sais pas quoi, évidemment, elle est nécessaire. Bah, de toute façon, en fait, elle est rendue nécessaire par les circonstances historiques, voilà, de l'offensive continue du capital dans la lutte des classes. Mais en tout cas, voilà, un peu une émission pour peut-être dissiper certaines illusions sur la possibilité de trouver une sorte de modèle d'intervention politique qu'on pourrait reprendre dans le passé et réappliquer aujourd'hui tel quel, et qui serait vraiment efficace. D'une part, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur son efficacité, et d'autre part, et là je pense que c'est là où l'histoire des luttes est intéressante, c'est que même parfois quand c'est efficace, ça peut donner des résultats un petit peu catastrophiques.
Tout à fait. Et d'ailleurs, là, je suis tout à fait d'accord avec toi également, c'est le fait que, en fait, les théories dont on parle, quelles qu'elles soient, à quelle époque où elles surviennent, et ben en fait, elles sont les produits des luttes sociales, elles tirent des expériences des luttes sociales passées, et elles les interprètent correctement ou non. Par exemple, là, récemment, avec les Gilets jaunes, l'échec des Gilets jaunes a beaucoup été imputé au manque d'organisation, et donc au fait que si tous les Gilets jaunes avaient rejoint un parti ou un syndicat, alors ils auraient obtenu une victoire sur le gouvernement. Mais enfin, la question qui ne se pose pas lorsqu'on fait cette interprétation, c'est pourquoi les Gilets jaunes n'ont pas rejoint ce dit parti ou ce dit syndicat. Mais bref, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que les théories, elles sont produites par les luttes, elles en sont les relais, elles en sont même la traduction intellectuelle en fait des luttes sociales. Et tout ce débat qu'on est en train de jouer, c'est pour ça qu'il doit être remis en cause en permanence, qu'on doit re-questionner ces termes, et ça c'est un geste qui est fondamental, et qui à mon avis doit être développé dans les milieux militants et les milieux communistes en général.
Oui, et c'est une très bonne conclusion, parce qu'effectivement on pourrait dire que Marx lui-même en fait a constamment remis en cause ses propres conceptions, Bakounine aussi d'ailleurs dans une certaine mesure, à fur et à mesure qu'ils ont rencontré des nouvelles expériences et des nouvelles formes de lutte sociale, et que eux n'ont pas porté d'une manière avant-gardiste en avant. Souvent, Lénine, que ce soit Lénine, que ce soit Marx, que ce soit Bakounine, souvent ils ont été presque à l'arrière-train de l'histoire. Ils ont suivi le mouvement de l'histoire. Éventuellement, à un moment, ils l'ont chevauché entre guillemets comme Lénine, ou ils ont anticipé certaines de ces tendances, ou ils ont chercher voilà, à y contribuer, comme Marx et Bakounine dans l'International. Mais en tout cas, il faut bien, entre guillemets, je pense que c'est une bonne conclusion, voilà, aussi avoir une certaine modestie, voilà, une modestie de celles et ceux qui, depuis leur position de militants communistes, d'intellectuels, etc., prétendent intervenir dans les mouvements sociaux autrement que en tant que prolétaire, prof, etc., etc. Ça, c'est évidemment une partie qui est parfaitement compréhensible. Si évidemment, comme disait Marx, toutes les révolutions ont toujours tendance à penser avec les figures du passé, donc 1848, c'est penser à partir de 1793, 1793 à partir de 1789, aujourd'hui, il y a plein de gens... En 68, beaucoup de gens ont pensé 68 comme une répétition de 1917 ou de 1871, en fonction de leurs obédiences. Si évidemment ce réflexe, il est normal, et voilà, et les Gilets jaunes se pensaient comme les héritiers de la Révolution française, voilà, il faudra bien avoir conscience que, en fait, l'histoire de la Révolution ou des mouvements sociaux ne se répète pas deux fois.
Et pourquoi pas, si les circonstances semblent nous y prêter, passer du marxisme à de l'anarchisme, ou de l'anarchisme au marxisme, comme l'ont fait certaines grandes figures, comme Victor Serge, comme Karl Korsch, sans pour autant renier leurs idéaux d'émancipation humaine et d'abolition du capital. Et nous, ce qui, à mon avis, est pertinent aujourd'hui dans les temps qu'on traverse, c'est aussi penser la rupture, et c'est-à-dire savoir que toute stratégie qu'on imagine, elle est rupture qualitative avec, avec la manière dont on envisage le politique, nous, en tant qu'êtres humains, empêtrés dans des rapports sociaux capitalistes et finalement forcés de composer avec. Et comme le disait Bruno Astarian, les mots dont nous disposons aujourd'hui n'ont pas prévu qu'une société puisse être communiste et même puisse être révolutionnaire.
Oui, oui, bah c'est une belle conclusion aussi, effectivement, enfin, de modestie et aussi un petit peu d'autocritique du sectarisme. C'est-à-dire que, bon, en fait, c'est pas nous qui avons les clés de la révolution future. Et donc, effectivement, s'écharper aujourd'hui sur le bon modèle d'organisation de la révolution future, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt, puisqu'effectivement, on peut débattre en fonction de ses affinités des luttes passées et de ce qui est problématique ou pas dans telle et telle lutte passée. Mais par contre, aujourd'hui, prétendre avoir le modèle d'intervention et le modèle de l'organisation révolutionnaire, c'est péremptoire et ça crée des divisions qui sont plus des sortes de luttes de pouvoir... de tentative de chacun de constituer sa petite chapelle ou sa petite secte, que quelque chose qui va vraiment favoriser, entre guillemets, la révolution, voilà. Mais merci du coup beaucoup, Leud, d'avoir participé à cette discussion sur ce sujet, sur la politique, le parti, et on pourrait dire aussi l'organisation révolutionnaire, hein, plus généralement, et la révolution. Et donc, on te retrouvera pour une autre émission sur un sujet... assez proches, qui sont sur la question des théories marxiennes et marxistes de l'État, puisqu'évidemment, là, on a beaucoup parlé, plutôt de changements politiques, de partis, d'organisations révolutionnaires, de révolutions, mais évidemment, tout ça est un peu en lien quand même aussi avec la manière dont on conceptualise l'État, et notamment l'État dans le capital et dans le capitalisme. Donc, merci beaucoup.
Merci. Spectre.